Soldat du 5e, reconnaissez-moi. S'il est parmi vous un seul homme qui veuille tuer son empereur, il peut le faire. Me voilà. Adieu, terre des braves, je te salue. Adieu, France. Adieu.
Il est resté immobile depuis ce moment jusqu'à 5h49 minutes du soir, qu'il a rendu son dernier soupir.
C'est dans les temps difficiles que les grands hommes déploient toute l'énergie de leur caractère et deviennent un objet d'admiration pour la postérité.
Il a été le plus grand ennemi de l'Angleterre, et aussi le mien. Mais je lui pardonne tout. À la mort d'un grand homme, nous ne serions éprouvés que recueillement et regret.
Le 5 mai 1821 à 17h49, Napoléon meurt à l'âge de 51 ans sur l'île de Sainte-Hélène. Chateaubriand dira qu'il venait de rendre à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Napoléon, prisonnier des Anglais, s'est éteint après 6 ans de déportation sur un rocher perdu au milieu de l'océan. 6 longues années, pendant lesquelles il n'aura de cesse de façonner son histoire et de construire sa légende pour la postérité.
L'infortune seule manquait à ma renommée. J'ai porté la couronne impériale de la France, la couronne de fer de l'Italie. Et maintenant, l'Angleterre m'en a donné une autre plus grande encore et plus glorieuse. Celle portée par le sauveur du monde. Une couronne d'épis.
Napoléon, le crépuscule de l'aigle. Une série réalisée par Franck Istas et Pierre de Valais. Deuxième épisode, les dernières heures de l'Empire.
Après la défaite catastrophique de Waterloo, l'armée française n'existe plus, c'est la débandade. Napoléon est sous le choc. Lui qui pensait la victoire facile est obligé de revenir à Paris le plus vite possible en galopant jour et nuit. Se rend-il compte des conséquences terribles que va avoir cette défaite ?
C'est peut-être dans ce moment immédiatement après la bataille qu'on voit que Napoléon n'est plus tout à fait à la hauteur, qu'il a vieilli, qu'il est fatigué.
Charles-Éloi Vial, historien, auteur de L'Histoire des 100 jours.
Et qui n'est plus tout à fait en prise avec la réalité. On s'en rendait déjà compte en 1812, en 1813. En 1814, c'est vrai que ça allait un peu mieux. Il a fait illusion avec la campagne de France. En 1815, il n'est pas tout à fait dans son assiette. Et on s'en rend très bien compte puisque, au lieu d'analyser froidement les conséquences de la bataille, on dirait qu'il la nie. Il y a une lettre à son frère Joseph où il parle de Waterloo. Il qualifie Waterloo d'échauffourée. Alors qu'en réalité, il n'a plus d'armée. Il a réussi à perdre complètement ses 90 000 hommes en à peu près 48 heures de campagne. Donc c'est une catastrophe au point de vue militaire. Et il est persuadé qu'il pourra réparer les conséquences de cette défaite en revenant à Paris au plus vite, en laissant donc le corps de Grouchy qui est à peu près intact, les quelques hommes qui peuvent rester à Jérôme, faire un petit peu tampon, retarder le plus possible les Anglais et les Prussiens. Et que, une fois arrivé à Paris, immédiatement, il va trouver, comme ça d'un claquement de doigts, 300 000 hommes, qu'il va pouvoir lever une nouvelle armée, qu'il va trouver des armes quasiment par miracle, de l'argent, qu'il va pouvoir repartir à nouveau à la guerre. Donc ça marchait en 1813, là il a réussi à lever une nouvelle armée. On voyait déjà bien en 1814 qu'il avait du mal à trouver des conscrits, qu'il avait du mal à trouver des chevaux. En 1815, il a réussi à lever cette armée du Nord qui est quand même assez réduite hein, comparée aux armées qu'il avait pu avoir dans les campagnes précédentes. Et en fait, il n'y a plus de soldats, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'argent, les arsenaux sont vides. Donc Napoléon, ça, ne s'en rend pas compte. C'est là qu'on voit qu'il n'est plus tout à fait en phase avec la réalité, ou plutôt qu'il prend ses désirs pour la réalité.
Effectivement, les premières réactions de Napoléon après la bataille de Waterloo laissent songeur. Comme s'il refusait de reconnaître l'incroyable humiliation que la France vient de subir. Sur le chemin du retour, Napoléon semble n'avoir qu'une idée en tête. Refaire une armée pour contrer l'ennemi qui va maintenant envahir la France. Il écrit à son frère Joseph.
Tout n'est pas perdu. Je suppose qu'il me restera, en réunissant mes forces, 150 000 hommes. Les fédérés et les gardes nationaux qui ont du cœur me fourniront 100 000 hommes. Les bataillons de dépôt, 50 000. J'aurai donc 300 000 soldats à opposer de suite à l'ennemi. J'attellerai l'artillerie avec des chevaux de luxe. Je ferai lever en masse. J'accablerai l'ennemi. Mais il faut qu'on m'aide et qu'on ne m'étourdisse point. Tout peut se réparer encore. Écrivez-moi l'effet que cette horrible échauffourée aura produit à la Chambre. Je crois que les députés se pénétreront que leur devoir, dans cette grande circonstance, est de se réunir à moi pour sauver la France. Préparez-les à me seconder dignement. Surtout du courage et de la fermeté.
Il faut quand même avoir à l'esprit toujours que Napoléon, s'il a réussi magnifiquement son entrée en scène, hein, en Italie, s'il est quand même maintenu assez longtemps, par des exploits, par la gloire, etc., il lui faut aussi réussir sa sortie de scène.
Pierre Branda, historien, auteur de Napoléon à Sainte-Hélène.
Et ça, quand même, il y a pensé. Il y a pensé aussi quand il revient d'Île d'Elbe et au soir de la bataille de Waterloo. Pourquoi pas mourir sur le champ de bataille, finalement, qui était la mort glorieuse. Bon, il se trouve que sa suite l'emporte précipitamment. Comme toujours avec Napoléon, avec des coups pareils, il a un moment d'abattement et de stupéfaction. Mais en fait, c'est un personnage qui se reprend vite. Alors, il rentre à Paris. Il n'est pas encore certain d'abdiquer. Il a quand même cette carte. Il sait que peut-être il ne peut pas se maintenir. Mais sait-on jamais, il peut peut-être tenter quelque chose politiquement, il a encore des troupes, il se dit dans le fond, je peux encore mener bataille sur le sol de France, mais enfin, il commence à percevoir qu'il y a des divisions au sein du peuple français.
À son arrivée à Paris, après 3 jours de course effrénée, Napoléon est un homme profondément démoralisé. Il dira à son fidèle Caulaincourt, « Je viens de recevoir un coup dont on ne se relève pas. Il veut se reposer pour reprendre ses esprits. »
Tout le matériel est perdu. C'est la plus grande perte. L'affaire était gagnée. L'armée avait fait des prodiges, l'ennemi battu sur tous les points, le centre des Anglais tenait seul. La journée finie, l'armée a été prise d'une terreur panique. C'est inexplicable. Ney s'est conduit comme un fou. Il m'a fait massacrer ma cavalerie, je n'en puis plus. Il me faut 2 heures de repos pour être à mes affaires. J'étouffe.
Lorsque Napoléon arrive à Paris, il vient de passer, on va dire, 3 jours sans dormir, quasiment. Donc il est épuisé.
Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon.
La défaite de Waterloo l'a quand même beaucoup choqué. Il s'est quand même rendu compte de l'ampleur de la défaite. Et donc il va d'abord essayer de réunir autour de lui quelques soutiens dans le gouvernement. Alors, ce sont des gens, bien sûr, comme Cambacérès, comme Marais, alors qui sont plutôt des politiques, donc un petit peu craintifs, qui pensent toujours au coup suivant. Et puis, il va bien sûr s'appuyer beaucoup sur ses 2 frères, Joseph et Lucien Bonaparte, pour essayer de sauver l'Empire. Alors,
mais tout n'est pas perdu. Je vais rendre compte aux chambres de ce qui s'est passé. Je leur peindrai les malheurs de l'armée. Je leur demanderai les moyens de sauver la patrie. J'espère que la présence de l'ennemi rendra aux députés le sentiment de leur devoir et que ma démarche franche les ralliera. Après cela, je repartirai.
Mais Napoléon ne sera pas suivi dans son ambition de repartir en campagne après une telle défaite. Face à lui, l'opposition s'organise et plus grand monde ne semble vouloir le suivre cette fois. L'empereur n'inspire plus la confiance. L'architecte Fontaine, un des inventeurs et un des principaux représentants du style Empire, dit de lui.
Il est revenu à Paris en fugitif, ne songeant qu'à sa personne, laissant une armée défaite à la merci du vainqueur et livrant la France aux vengeances d'un ennemi irrité contre elle. Le prestige est détruit. On ne reconnaît plus l'homme extraordinaire. Et le regret de voir un personnage aussi célèbre survivre honteusement à sa chute est le seul sentiment qu'il inspire.
Alors, quand Napoléon revient à Paris, donc il revient à Paris le 21 juin, il se réinstalle au palais de l'Élysée, il y a un conseil des ministres. Il y a une moitié de ces ministres qui sont tout à fait, on va dire, enthousiasmés par son discours, qui veulent se battre, qui ne sont pas à le soutenir, notamment Carnot, qui est l'organisateur de la victoire de l'an 2, donc lui, lever des armées en catastrophe, ça lui parle. L'autre moitié est atterrée. C'est-à-dire que, ne serait-ce que Caulaincourt, par exemple, extrêmement inquiet, surtout Fouché, extrêmement inquiet, et comprend que ce qu'il faut faire, c'est très vite manœuvrer en coulisses, au niveau de la Chambre des Pairs et de la Chambre des députés, pour se débarrasser de l'empereur en le poussant à abdiquer ou en déclarant sa déchéance, comme cela avait été le cas en 1814, parce que ses projets sont néfastes, ses projets sont funestes. Vraiment, Paris est à la veille d'être prise, d'être envahie, d'être pillée. Donc il y a vraiment une très forte inquiétude. Une inquiétude parce que Napoléon est complètement hors de contrôle. On ne sait pas ce qu'il peut faire. Il lui reste quand même quelques troupes. Il lui reste la garde nationale, il lui reste des ouvriers fédérés qui pourraient essayer de lever. Donc tout cela pourrait finir réellement en une sorte d'hécatombe complètement sanglante, avec des soldats inexpérimentés qui seraient fauchés par des canons prussiens, par une guerre civile dans Paris même. Donc la situation est très grave et très dangereuse. Et Napoléon, il faut l'écarter au plus vite.
Dans l'ombre, comme une pieuvre dangereuse tapie sous un rocher qui attend sa proie, Fouché, le terrible ministre de la police de Napoléon, manigance, complote pour renverser l'empereur une bonne fois pour toutes. Il fait passer le message suivant aux députés.
Aux membres inquiets, méfiants et ombrageux de la Chambre, je dis, il faut agir, faire peu de phrases et courir aux armes. Napoléon est revenu furieux, décidé à dissoudre la Chambre et à saisir la dictature. Nous ne souffrirons pas, je l'espère, ce retour à la tyrannie. Le danger est pressant. Dans peu d'heures, les chambres n'existeront plus. Vous seriez bien coupable de négliger le seul moment de vous opposer à la dissolution. Il est très abattu et n'est pas reconnaissable. Il espère, il désespère. Il veut, il ne veut pas. C'est une tête détraquée.
Fouché, c'est un homme de l'ombre qui, depuis longtemps, comme beaucoup d'hommes de l'ombre, rêve de prendre la lumière. En fait, Fouché rêve du premier rôle depuis la Révolution. Et en fait, c'est quelqu'un qui est en permanence politique, qui ment du matin au soir, qui intrigue du matin au soir, sur lequel on ne peut pas se fier, et qui joue un jeu très personnel, très intelligent, très fin, et qui est d'ailleurs sur le point d'emporter. Il va emporter la partie parce qu'il joue magnifiquement. Hein. Et lui aussi est quelqu'un qui essaye de ménager les susceptibilités, sait très bien utiliser le temps, ne part pas trop vite, pas trop tard. Enfin, bon, il est quand même quelqu'un de rusé. Hein.
Napoléon hésite. Ses derniers soutiens, comme Lavalette, son directeur général des postes, le pressent d'agir au plus vite, car l'opposition se renforce d'heure en heure.
Rien n'est perdu si votre majesté prend promptement des mesures énergiques. Le plus urgent est de proroger les chambres, car avec son hostilité passionnée, la Chambre des représentants paralysera tous les dévouements.
Son frère Lucien va encore plus loin et l'adjure de supprimer les chambres au plus vite pour déclarer la dictature.
Si les chambres ne veulent pas seconder l'empereur, il faut que Napoléon se déclare dictateur, qu'il mette tout le territoire en état de siège et qu'il appelle à la défense de tous les bons Français.
Napoléon est très tenté par la dictature à ce moment-là. Napoléon a très envie, comme d'ailleurs on le sentait déjà un petit peu au mois d'avril, au mois de mai, de se débarrasser de l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire, d'ajourner les deux chambres et de gouverner seul. Il est persuadé qu'au fond, la France et les Français n'ont besoin que de lui, ils n'ont pas besoin d'autre chose. Donc il y a cette tentation très nette et il faut l'arrêter. Là aussi, les députés s'en rendent bien compte. S'ils tardent un petit peu, Napoléon risque de leur envoyer la troupe, de faire une sorte de nouveau 18 Brumaire et il n'y aura plus de contre-pouvoir. Le seul moyen pour les députés, selon eux, de sauver la France, c'est de réussir à écarter l'empereur, quitte à le chasser un petit peu sans ménagement, et ensuite d'entrer en négociation avec les ennemis.
Mais Napoléon, même s'il est tenté par ce conseil, refusera de se déclarer dictateur. Sans doute pense-t-il déjà à la postérité et peut-être pense-t-il déjà à mettre en scène la fin de sa carrière politique.
Si la nation se lève, l'ennemi sera écrasé. Si, au lieu de lever en masse et de mesures extraordinaires, on dispute, tout est perdu. L'ennemi est en France. J'ai besoin, pour sauver la patrie, d'être revêtu d'un grand pouvoir, d'une dictature temporaire. Dans l'intérêt de la patrie, je pourrais la saisir, mais il serait utile et plus national qu'elle me fût déférée par les chambres.
Napoléon croit-il vraiment qu'il pourra convaincre les députés, les chambres, à le soutenir malgré la catastrophe de Waterloo? En tout cas, autour de lui, plus grand monde ne semble y croire.
Il n'y a plus personne. Il y a son frère, il y a Lucien, qui lui conseille de résister.
Emmanuel de Waresquiel, historien, biographe de Fouché et Talleyrand.
Mais la plupart savent que les jeux sont faits. À commencer par Fouché, qui le dit à Pasquier dès les premiers jours du retour de Napoléon. Cela durera 3 mois, dit Fouché, qui, pour le coup, a fait preuve d'une très grande lucidité et qui joue un double jeu, qui finira presque par se faire prendre la main dans le pot de confiture par Napoléon. Il y a cette fameuse algarade qui est rapportée par Fouché. Vous êtes un traître, je devrais vous faire fusiller. Et Fouché de lui répondre sur le ton le plus froid qui soit, « Sire, je ne suis pas de l'avis de votre majesté. »
Napoléon est entouré de quelques personnes qui vont vraiment le soutenir. Alors, c'est essentiellement ses frères, un petit peu Marais, le maréchal Davout. Et puis, il a face à lui des alliés bien compliqués. C'est-à-dire des alliés qui sont en réalité ses ennemis cachés. Il y a Fouché, évidemment. Fouché qui, lui, est un des seuls qui a très exactement prévu ce qui allait se passer, puisque dès le mois de mars, il a écrit à un de ses amis que toute cette affaire ne durera pas plus de 3 mois. Donc c'était quand même plutôt bien vu. Fouché qui a un petit groupe de parlementaires qui le soutient, qui est quand même une personnalité politique de très grande envergure, donc très très respectée. Et puis Fouché qui, grâce à cet entre-gens, grâce à ce groupe parlementaire, va totalement éliminer celui qui croit qu'il va résoudre tous les problèmes, qui est Lafayette. Lafayette, qui est un des personnages les plus connus de l'histoire de France, les plus vénérés à l'étranger, est quand même l'homme qui a tout raté dans sa vie. C'est-à-dire qu'il a raté la monarchie constitutionnelle, il a raté 1815, il ratera plus tard 1830. C'est véritablement l'échec permanent, c'est le loser auquel on aime élever des statues.
Lafayette, pardonnez-moi l'expression, mais c'est l'idiot utile de cette histoire. En fait, il va être berné par Fouché. En fait, on l'utilise comme son image, en fait, son image libérale, etc., pour le pousser en avant et comme ça mettre dehors Napoléon. Mais en fait, pour lui, on lui réserve un rôle véritablement un peu de guignol, en fait. Et Lafayette, qui est quand même un personnage imbu de sa personne et qui est facilement lui influençable, parce qu'il suffit orgueilleux, donc en fait, il suffit de le flatter pour que finalement il apparaisse. Et donc lui va entrer dans ce jeu sans comprendre qu'en fait on l'utilise de bout en bout et va être un peu encore cette marionnette qu'on agite et sans véritable pouvoir et qui ne sert que les intérêts de Fouché en fait.
Mais c'est bien ce loser orgueilleux qui n'a pas compris dans quelle pièce il joue que Fouché utilise pour s'opposer à toute tentative de Napoléon de reprendre une campagne ou de se maintenir sur le trône. Et Lafayette, ancienne figure de 1789, n'a rien perdu de sa verve.
Lorsque pour la première fois depuis des années, j'élève une voix que les vieux amis de la liberté reconnaîtront encore, je me sens appelé à vous parler des dangers de la patrie, que vous seul présent avez le pouvoir de sauver. Des bruits sinistres s'étaient répandus. Ils sont malheureusement confirmés. Voici l'instant de nous rallier autour du vieil étendard tricolore, celui de 1789. Celui de la liberté, de l'égalité et de l'ordre public. C'est celui-là seul que nous avons à défendre contre les prétentions étrangères et contre les tentatives intérieures. Permettez, messieurs, à un vétéran de cette cause sacrée, qui fut toujours étranger à l'esprit de faction, de vous soumettre quelques résolutions préalables dont vous apprécierez, j'espère, la nécessité. La Chambre se déclare en permanence. Toute tentative pour la dissoudre est un crime de haute trahison. Quiconque se rendrait coupable de cette initiative serait traître à la patrie et jugé comme tel.
Même Davout, le ministre de la guerre pendant les 100 jours, le grand maréchal qui s'est couvert de gloire avec l'empereur sur les champs de bataille napoléoniens, conseille à son maître de jeter l'éponge.
Sire, le moment d'agir est passé. La résolution des représentants est anticonstitutionnelle, mais c'est un fait consommé. Il ne faut pas se flatter, dans les circonstances actuelles, de refaire un 18 Brumaire.
Pour moi, je me refuserai d'en être l'instrument.
Un Napoléon non épuisé, normal et avec, on va dire, 10 ans de moins, aurait probablement essayé de relever une armée. Mais
Thierry Lenz.
On peut dire quand même, compte tenu de la rapidité avec laquelle il se résout à abdiquer, je crois que là, il a compris, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, il sait que sa carrière personnelle, en tout cas, est terminée. Et puis, on ne peut pas mettre en doute non plus qu'à un moment donné, il ait pensé à la France, quoi, en se disant, bon, on ne va pas recommencer les scènes terribles de l'année précédente, parce que l'invasion de 1814 a quand même donné lieu à pas mal d'exactions dans l'est de la France de la part des envahisseurs. Donc, je crois qu'il y a un peu des deux. Il y a à la fois ce que Dominique de Villepin a mis en avant, c'est-à-dire son esprit de sacrifice, et puis il y a en même temps le constat que c'est terminé.
Je n'ai plus d'armée. Je n'ai plus que des fuyards. Je retrouverai des hommes, mais comment les armer ? J'espère que les députés me seconderont. La majorité est bonne et française. Je n'ai contre moi que Lafayette et quelques autres. Je les gêne. Ils voudraient travailler pour eux, mais je ne les laisserai pas faire. J'avais bien pensé que j'aurais dû congédier ces gens-là avant mon départ. C'est fini. Ils vont perdre la France. »